Vous êtes sur RTL.
Il y a une mi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 4 août. Le Covid dans le sud de la France. La Haute-Corse étend le port du masque à l'extérieur et interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Plan blanc déclenché dans les hôpitaux en Corse, mais aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vidéosurveillance dans les villes. Valenciennes épinglée par la CNIL. Des caméras trop intrusives. Invité de RTL Midi. Arthur Messot, juriste à l'association La Quadrature du Net. Des taux immobiliers de plus en plus bas. Les records continuent de tomber autour de la barre des 1% en moyenne sur 20 ans du jamais vu. De l'argent pour le Liban. Troisième conférence internationale de soutien à la population libanaise. En ce moment, sous la houlette d'Emmanuel Macron, à Beyrouth, l'heure est au recueillement un an jour pour jour après l'explosion du port. La douleur de Kevin Mayer, la voile en bronze, notre rendez-vous à Tokyo pour ce 11e jour des JO. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Cet après-midi, eh bien, c'est majoritairement encore de la pluie.
Exactement, on a une perturbation active qui, donc, dans l'après-midi, va se décaler vers le pourtour méditerranéen en passant par la région Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté avec des pluies qui seront temporairement soutenues alors qu'à l'ouest, ça va se calmer, particulièrement dans le sud-ouest, mais au prix d'un vent quand même modéré, 60 km/h. Des petites éclaircies vont pouvoir se développer, mais à bon
quand
régime
même.
D'averse également, mais malheureusement aussi sur la façade ouest, le massif central, le centre de Loire. Par contre, au nord du pays, ça sera un ciel quand même beaucoup plus variable. Quelques éclaircies vont quand même pouvoir se développer, mais ça sera aussi humide. Une ondée, en effet, n'est pas à exclure, toujours sous des normales de saison. 19 à 23 degrés en général, on change pas une équipe qui gagne, et puis 26 à 30 degrés vers la Méditerranée.
On garde le petit pull. Merci Claire.
Exactement.
La question du jour, vaccination obligatoire, soutenez-vous la grève des soignants? Vous dites oui à 32%, non 63%. Nous attendons vos appels au 3210. Vos chroniques du jour, présidentielle. Le jour où j'ai dit oui, avec les confessions de Jean Lassalle, et la table allongée après 13h avec le papa de notre nageur, Marc-Antoine Olivier. Et puis les auditeurs ont la parole jusqu'à 13h30, bien sûr. Vous ne bougez pas, vous êtes bien sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tous sur le pont, remobilisation des soignants contre le Covid, avec le déclenchement du plan blanc en Corse et de nouvelles mesures restrictives en Haute-Corse. Pour l'instant, 80% de taux d'occupation des lits à l'hôpital de Bastia, un taux d'incidence très élevé chez les 15-19 ans. Alors le préfet, François Ravier, vient juste de s'exprimer. Le masque était déjà obligatoire depuis fin juillet dans les principales villes de la région. Ça ne suffit pas, Laetitia Giannettini.
Pas de passe sanitaire donc, mais une série de mesures restrictives. Les hôtels, cafés, restaurants et campings devront tous fermer leurs portes à 1h du matin. Le préfet de Haute-Corse a aussi annoncé l'interdiction des kermesses et fêtes de village et de manière générale tous les rassemblements festifs de plus de 10 personnes. Même sur la plage, ces rassemblements spontanés seront interdits à partir de 21h. Le préfet de Haute-Corse entend diriger l'activité vers les lieux qui appliqueront bientôt le passe sanitaire. Quant aux fêtes privées et cérémonies familiales, elles devront être déclarées en préfecture au moins 72 heures avant. On ne restreint pas de gaieté de cœur, a déclaré François Ravier, mais si on ne restreint pas, il faut assurer la sécurité.
Laetitia Giannettini, notre correspondante de Corse. Et on rajoute aujourd'hui que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur passe aussi au plan blanc, une étape qui permet de rappeler le personnel médical pour augmenter le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation des patients Covid. À Marseille, hier soir, 102 cas dans les hôpitaux, dont 31 en réanimation. Samia Belbachir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devant l'hôpital Nord de Marseille où la tension grimpe un peu plus chaque jour.
Ouais, le nombre de patients Covid a plus que doublé dans les hôpitaux de la région en une semaine. L'ARS a déclaré dans un communiqué hier soir que la circulation virale s'amplifie encore avec un taux d'incidence de 562 cas pour 100 000 habitants dans la région. L'activité des urgences et associations SOS médecins est en hausse continue en région PACA. Dans le Var, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter aussi. C'est encore pire dans les Bouches-du-Rhône. Les jeunes sont encore plus concernés avec plus de 1600 cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans sur les deux départements. départements, Bouches-du-Rhône et Var, le taux de positivité de tests augmente et de nombreux clusters ont d'ailleurs été également détectés dans les EHPAD avec 87 clusters en cours d'investigation dans les Bouches-du-Rhône, 60 clusters dans le Var. Ce sont les chiffres les plus élevés de la région.
Samia Belbachir à Marseille pour RTL. Et pendant ce temps, la fronde s'organise parmi une partie du personnel soignant. Préavis de grève illimité déposé aujourd'hui par le syndicat Sud Santé contre la vaccination obligatoire des blouses blanches. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain sur le pass sanitaire, sur l'obligation vaccinale de certaines professions. Préavis de grève aussi des pompiers contre cette obligation vaccinale. Et pendant ce temps, début d'un nouveau confinement en Guadeloupe. Interdiction d'étaler sa serviette ou de pique-niquer sur la plage. Vous pouvez juste vous baigner sans vous sécher au soleil. Interdiction d'aller boire un verre dans un bar, de vous promener à plus de 10 km de chez vous et de sortir entre 20h et 5h du matin. En économie, devenir propriétaire et emprunter vous coûte de moins en moins cher. Les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA affichent des taux immobiliers à 1,05% en juillet. Une baisse continue depuis presque un an, Arnaud Touche.
Absolument, car en juin 2020, les taux s'établissaient à 1,27% et désormais, un an plus tard, on est à 1,05%. Des taux rarement vus jusque-là. Le taux moyen sur tout le second trimestre de cette année était de 1,06%. Là aussi, vous le voyez, il est très bas. Le mois, la durée moyenne effectivement des prêts était de 236 mois, en gros 19 ans et demi. Cette durée, elle a par ailleurs augmenté de 7 mois depuis décembre dernier. Pour ceux qui achètent du neuf, par exemple, la durée moyenne, elle est plutôt de 21 ans et demi, c'est un petit peu plus que par rapport à l'ancien. Et dans tous les cas, on emprunte donc pour moins cher, mais la durée du prix, elle augmente légèrement. Cela s'explique aussi par une hausse des prix de l'immobilier. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les taux sont bas qu'il y a plus de crédits qui sont contractés en ce moment. Bien au contraire, on observe même un ralentissement de l'octroi des prêts en juillet, alors qu'ils étaient de plus en plus nombreux jusque-là.
Arnaud Touche, du service économie de RTL. La PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires inscrites au journal officiel. C'est d'ailleurs l'ensemble de la loi de bioéthique qui vient d'être promulguée. Les recours déposés par les députés Les Républicains et UDI avaient été rejetés la semaine dernière par le Conseil constitutionnel. Souriez, vous êtes filmé à Valenciennes. Le système de vidéoprotection en fait-il trop? La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vient de mettre en garde cette commune des Hauts-de-France. Les caméras seraient trop intrusives. Elles filmeraient des espaces privés. Les Valenciennois ne pourraient pas accéder aux données. 308 caméras offertes par le chinois Huawei, qui veut ainsi profiter d'une vitrine en France. Emmanuel Michel, vous êtes allé à la rencontre des premiers concernés, les Valenciennois.
Oui, ici sur la place de Valenciennes, juste devant la mairie, les habitants que j'ai rencontrés partagent le même sentiment.
C'est oppressant. On ne peut pas faire un poste sans se faire filmer.
C'est le commencement d'être fliqué et après on pourrait être de plus en plus fliqué.
On a quand même ce droit de liberté et ça, aujourd'hui, elle est un petit peu gâchée, cette liberté.
Une inquiétude confirmée, comme vous le disiez, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui met en garde la commune du Nord concernant l'usage de son dispositif de protection. L'opposition dénonce d'ailleurs ces intrusions dans la vie privée depuis déjà plusieurs mois, comme nous l'explique Luce Troidec de la France Insoumise.
J'aurais plusieurs récits, à la fois personnels et puis d'autres personnes que je connais, qui ont le sentiment parfois d'être un peu la cible par des moyens qui paraissent légèrement surnaturels. Donc ça peut aller assez loin. Si toutes les fonctionnalités de ces caméras sont utilisées avec les différents logiciels de technosurveillance derrière, on peut pister quelqu'un de la sortie son domicile, dans toutes ses activités quotidiennes.
Laurent Degallet, maire UDI, semble assumer son ambition de faire de Valenciennes ce que l'on appelle une safe city, une ville sûre. Il n'a jamais remis en cause le système de surveillance fourni par Huawei.
Le reportage d'Emmanuel Michel à Valenciennes. Alors, invité de RTL Midi, Arthur Messeau, juriste à la Quadrature du Net. C'est une association de défense des libertés dans l'environnement numérique. Bonjour.
Bonjour.
Arthur Messeau, à la Quadrature du Net, vous êtes particulièrement vigilant sur la surveillance des citoyens. Que reprochez-vous exactement, vous, à la ville de Valenciennes?
On va reprocher la même chose que la CNIL a tout à fait reconnue, et on se félicite que la CNIL d'ailleurs s'aligne sur nos positions protectrices, c'est que les dispositifs d'analyse automatisée des caméras, donc en fait les dispositifs d'intelligence artificielle qui vont analyser toute la ville, ne sont pas nécessaires. Alors la CNIL n'a pas dit directement que ce n'était pas nécessaire, mais en fait elle a dit que Valenciennes n'avait jamais démontré que tous ces dispositifs étaient utiles, et que du coup, tant qu'elle n'avait pas démontré l'utilité de surveiller toute la population, elle devait mettre fin à la surveillance par analyse automatisée de l'espace public. Alors, il faut voir dans les documents qu'ont publié Mediapart. Mediapart a fait un super article sur ce sujet.
Oui, c'est le média Mediapart qui a révélé cette affaire.
Mmh. Voilà. Donc, dans les documents qui ont été publiés, on voit qu'en fait, la CNIL constate que les dispositifs d'analyse automatisée d'images n'ont servi qu'une seule fois pour détecter des dépôts d'ordures sauvages et qu'en fait, ça sert à rien. En fait, la police s'en sert même pas vraiment. C'est juste pour faire plaisir à Huawei, pour offrir à Huawei une vitrine française sur le marché français. Mais en fait, même la police ne sert pas vrament des outils. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont pas vraiment utiles de surveiller tout le monde. L'intérêt principal pour les politiques, c'est de faire peur à la population.
Attendez, c'est votre analyse. On va recommencer, on va reprendre depuis le début, si vous le voulez bien. Par exemple, filmer les plaques d'immatriculation, c'est légal.
Oui, alors c'est pas tellement sur ce point-là qu'il y a le plus de débat, parce que bon, là, la CNIL l'a interdit parce qu'en fait, c'est les mauvaises autorités qui filmaient les plaques d'immatriculation. Mais c'est pas tellement ce point-là qui est nouveau. Le point nouveau et l'apport de la CNIL, c'est que c'est pas sur les plaques d'immatriculation, c'est sur les autres caméras. À Valenciennes, il y a 450 caméras. Ça fait une caméra pour 100 personnes à peu près. Déjà, c'est délirant. Et ces caméras, la moitié sont fournies par Huawei. Mmh. Et elles sont, donc la moitié sont équipées de systèmes d'analyse d'images automatisées.
De reconnaissance faciale, par exemple?
Alors non, c'est pas la reconnaissance faciale, parce que même la reconnaissance faciale, c'est pas nécessaire. Mais c'est en fait, ça va chercher à détecter des comportements pour lever des alertes. Typiquement, eux, ils parlent de comportement anormal. Mais en pratique, ça va être des gens qui taguent, des gens qui font la manche, des gens qui errent sans but. Ça, c'est des choses que la police veut détecter. Mais en fait, même en pratique, même s'ils aimeraient bien le détecter, en fait, ils s'en fichent. En fait, même quand la caméra renvoie des alertes comme ça, apparemment, ça les intéresse pas.
Et est-ce que les Valenciennois peuvent réclamer un accès à leurs données?
Non, là, il n'y a même pas vraiment d'exploitation. Donc, l'accès aux vidéos, oui, c'est possible. Mais après, l'accès aux résultats des traitements d'analyse automatisée, il n'y a pas grand-chose à quoi accéder, vu que je vois pas très bien quel document serait fourni. Donc non, c'est pas un problème d'accès, c'est un problème de surveillance et de sentiment que ça crée sur la population. Parce qu'il faut voir que même si ces systèmes de vidéos et d'analyse automatisée sont pas utiles à la police, ils créent un sentiment de peur. Et ça, ce sentiment de peur, ça arrange bien les politiciens les plus sécuritaires, parce que ça fait que les gens ont toujours l'impression d'être surveillés, vont adopter leur comportement pour ne jamais fâcher la mairie, et même sur des choses en dehors des questions de légalité. Typiquement, faire un pique-nique à l'extérieur, si ça plaît pas au maire, et qu'on se dit « Ah mince, le maire peut le savoir parce qu'il me surveille », du coup on se dit « Ah ben moi je vais pas faire mon pique-nique à l'extérieur, je vais plutôt faire autre chose ». En fait, ce sentiment-là d'être toujours soumis à la volonté des politiques, ça c'est une vision autoritaire, et c'est ça le principal principal intérêt des outils.
Alors on précise ici que la mairie de Valenciennes n'a pas voulu répondre à nos demandes d'interview. Arthur Messot, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui?
Alors nous, là pour Valenciennes, on a plutôt eu gain de cause, notre doctrine a prévalu, ça va être sur les autres villes qu'il va falloir répandre cette doctrine. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets de technopolis de ce style-là qui se répandent partout en France. D'abord, de un, c'est très difficile à documenter, à savoir où c'est. Donc, on essaie de voir les villes et les différentes entreprises qui font ça. Et de deux, il va falloir faire le tour de chaque ville et exiger, soit en demandant au juge administratif de faire ça, soit à la CNIL, exiger que tous ces projets-là cessent. Que tout ce qui va être l'analyse automatisée des images de l'espace public cesse, et même plus loin en fait, il va falloir que les villes enlèvent toutes les caméras qu'ils ont posées depuis des dizaines d'années et qui ne servent à rien. Il va falloir réduire les caméras au nombre le plus faible possible, voire les enlever toutes, parce que en fait, ce qu'on apprend, ce qu'on voit de plus en plus clairement, c'est que tout ça ne sert à rien.
Et pendant ce temps-là, Huawei continue à vouloir étendre son marché dans les villes françaises?
Alors, moi, j'ai pas le détail de toutes les villes dans lesquelles Huawei est implanté, mais en tout cas, oui, là, ils ont fait un coup de pub très fort, parce que le maire de Valenciennes, lui, il est très fier de son partenariat avec Huawei. Du coup, il parle de Huawei partout, et Huawei espère comme ça pouvoir accéder à des nouveaux marchés. Alors même, il faut rappeler que Huawei, c'est une entreprise chinoise qui a participé à la reconnaissance faciale, ou en tout cas des systèmes d'exploitation sur les Ouïghours en Chine. C'est vraiment une entreprise qui devrait pas être notre allié du tout, et qui là trouve des partenaires en France qui vont redorer son image.
Merci beaucoup Arthur Messot d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Une pause et dans un instant, la communauté internationale au chevet du Liban. RTL.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et 45 minutes sur RTL. 40 États et organisations internationales au chevet du Liban aujourd'hui. Un an, jour pour jour, après l'explosion du port de Beyrouth. Il s'agit de trouver 350 millions de dollars pour aider les Libanais à se nourrir, à se soigner. Le Liban qui s'enfonce dans une crise humanitaire et financière. Ce matin, le pape François a demandé des gestes concrets pour le Liban. À suivre donc cette conférence internationale qu'Emmanuel Macron vient d'ouvrir depuis le fort de Brégançon. Le président annonce que les aides iront directement aux associations et à la société civile et il interpelle également une nouvelle fois les dirigeants libanais. On l'écoute.
Je souhaite maintenant m'adresser directement au président Aoun et à l'ensemble de la classe politique libanaise. Je continue de considérer que la crise que vit le Liban n'est pas un coup du sort ni une fatalité. Elle est le fruit de faillites individuelles et collectives et de dysfonctionnements injustifiables. Tous les rendez-vous ont été manqués. Aucun engagement n'a été tenu. Le Liban mérite définitivement mieux. Former un gouvernement, trouver les compromis nécessaires, mettre en œuvre la feuille de route décidée il y a bientôt un an. La conférence d'aujourd'hui est une conférence humanitaire, de soutien à la population. Elle est donc inconditionnelle. Mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais, car il est, lui, depuis le début de la crise et même avant, défaillant.
Emmanuel Macron avec Émilie Beaujard du service étranger. Sur place, l'heure est aujourd'hui au recueillement. 214 morts, 6500 blessés. Ce 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium explosées, détruisant une partie de la capitale libanaise. Alors, dans plusieurs quartiers de Beyrouth, sont organisées des marches, des veillées, des cérémonies religieuses. Alice Moreno, vous êtes sur le port de Beyrouth, au cœur du drame. Les habitants arrivent petit à petit pour se souvenir de leurs morts.
Oui, le long de la route qui surplombe le port, des dizaines de Libanais déposent depuis ce matin des bougies, des messages, des bouquets.
C'est un bouquet de fleurs blanches. C'est pour l'espoir. C'est la couleur de l'espoir.
Marie choisit au hasard un des portraits de victimes affichés là sur un muret et y dépose ses fleurs.
En tant que Libanaise, je trouve que c'est quelque chose que je dois faire. Ça me touche aussi parce que cette journée-là, j'étais supposée être ici à 7h, pour une coïncidence, je ne suis pas allée à Beyrouth.
La culpabilité de la survivante la ronge. Elle ne restera d'ailleurs pas cet après-midi pour le grand rassemblement prévu ici. À quelques dizaines de mètres, Hussein fixe le port encore dévasté. Son regard est plein de colère.
C'est un sentiment de rage parce que ça fait un an exactement aujourd'hui que cette explosion a eu lieu. Et jusqu'à maintenant, personne ne veut dire qui a fait ça ou qui ont participé à ça. Mais il y a plus que 200 personnes qui ont été tuées. Et je dis tuées et non pas mortes, mais tuées.
À 18h07, heure de l'explosion, les participants au rassemblement observeront une minute de silence. Puis le cortège de la manifestation se dirigera vers le Parlement pour demander des comptes.
Alice Moreno, notre envoyée spéciale à Beyrouth. Athènes s'est réveillée dans la fumée et dans une odeur âcre. Les flammes caressent le nord de la capitale grecque depuis hier après-midi et la canicule n'arrange rien. La nuit a été particulièrement difficile pour les pompiers qui espèrent maîtriser le feu dans la journée. Des dizaines d'habitations et d'entreprises sont parties en fumée, Alexia Kefalas.
Oui, dans la banlieue de Varipopi, au nord d'Athènes, la nuit a été longue. Plus de 300 personnes ont été évacuées un peu plus loin. Depuis ce matin, la plupart aident les quelques 520 pompiers alors que 5 avions et 9 hélicoptères survolent les lieux. 150 véhicules sont mobilisés et 17 équipes au sol. Mais cela ne semble pas suffire pour Vangelis, un habitant de cette banlieue.
Nous n'avons pas dormi, c'est irrespirable. Mais les pompiers ne s'en sortent pas. Regardez, ce n'est pas possible.
La crise économique et les coupes budgétaires de ces 10 dernières années n'ont pas aidé à renforcer les infrastructures et les pompiers font appel aux volontaires. Spiros en fait partie.
J'en peux plus, il fait 40 degrés ce matin. Il y a un nuage de fumée dans toute la ville. On suffoque, on va mourir.
Selon le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le pire est à venir alors que les vents violents continuent d'attiser les flammes et que la canicule inédite depuis 34 ans risque de durer encore quelques jours.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce. Tout de suite, direction Tokyo.
RTL à Tokyo.
25 médailles, dont 6 en or pour la France. 11e jour de compétition et le sourire français, il s'affiche à la compétition de voile aujourd'hui. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont décroché le bronze, Nicolas Burnand.
Oui, deuxième au départ, les Françaises ont connu une régate plutôt compliquée sur leur dériveur et se contentent de la troisième place finale. Elles ont porté réclamation, suspectant les Britanniques, championnes olympiques, d'avoir volontairement laissé passer les Polonaises, ce qui leur aurait coûté la médaille d'argent. Elles n'ont pas été entendues par le jury. Originaire de Bretagne, Aloïse découvre la voile à 9 ans lors d'un stage. Sa monitrice s'appelle alors Camille Lecointre. Elles ne savent pas encore qu'elles se retrouveront 18 ans plus tard médaillées dans le même bateau. La Normande, Camille, 36 ans, s'est déjà parée du bronze à Rio. Elle possède un master en sciences de l'environnement marin, devient maman en 2017 et tout comme Charline Picon, met un temps entre parenthèses sa carrière sportive. Les deux femmes se retrouvent en 2018 au Pôle France de Brest pour préparer les Jeux. Le duo fonctionne instantanément. D'abord championne d'Europe, puis troisième place au mondial d'Enoshima au Japon, déjà sur le même plan d'eau.
Nicolas Burnon, à suivre cet après-midi les équipes féminines de hand et de basket pour les quarts de finale, du cyclisme sur piste également et l'athlétisme bien sûr, avec dans quelques minutes l'entrée en lice de Quentin Bigot pour le marteau et la suite du parcours du combattant de Kevin Mayer. On l'a vu tôt ce matin, le décathlonien est pour l'instant quatrième de la compétition après trois épreuves. Le rêve d'une médaille d'or s'est envolé. Isabelle Longer, bonjour.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Et tout ça à cause d'une mauvaise blessure au dos.
Oui, il s'est fait mal lors du stage terminal de préparation à Kobe. Ce matin, les larmes aux yeux, Mayer nous a dit qu'il allait se battre jusqu'au bout, même s'il est conscient que la médaille d'or semble désormais un petit peu inaccessible. Alors, encore deux épreuves à disputer aujourd'hui, à commencer par le saut en hauteur. Le Français, avec sa chaussure noire au pied droit et blanche au pied gauche, est dans le groupe B. Il a commencé son concours à 1m93 et pour le moment, écoutez, tout se passe bien. Il ne semble pas trop souffrir. C'est un sans faute. 4 barres franchies au premier essai. La dernière barre, c'était à 2m02. C'est la hauteur à laquelle s'est arrêté le Canadien Damian Warner, qui était en tête de ce décathlon après les trois premières épreuves. Si Mayer va plus haut, cela lui permettrait de refaire une petite partie de son large retard au niveau des points. Rappelons que le record personnel du tricolore à la hauteur est de 2m09. Cette première journée, Bénédicte, se terminera à 21h40, 13h40 pour vous en France pour le 400 mètres.
À suivre donc Isabelle Langer et Nicolas Burnan, nos envoyés spéciaux à Tokyo. Et puis on rappelle, on refait les Jeux à 18h30 sur RTL, présenté par Marie Portolano et Christian Olivier.
RTL. Présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
Le mercredi, tout cet été, c'est politique dans la chronique du jour présidentielle, le jour où j'ai dit oui. Comment une femme, comment un homme politique se décide à se lancer dans la course à l'Élysée. William Galibert a posé la question à un ancien et futur candidat, Jean Lassalle. Et il faut remonter à l'enfance du Béarnais pour découvrir cette vocation de vouloir servir l'État.
C'est le berger qui guide le troupeau. Mais qu'est-ce qui guide le berger? Quelle bonne étoile? Quelle ambition? Comment diable un colosse des Pyrénées peut un jour vouloir passer de sa chère vallée d'Aspe à l'Élysée?
Quand j'ai eu envie de réfléchir avec moi-même, avec un peu plus d'intensité que d'habitude, demander pourquoi, et je n'ai jamais réussi à répondre d'une manière qui m'apparaisse crédible à cette réponse. En fait, je crois qu'on l'a ou qu'on l'a pas. On a ce désir d'être ou de ne pas être, ou on ne l'a pas. Et en fait, je crois qu'il m'habite comme il habite tous ceux qui ont aspiré à servir. Servir avant tout, aimer à un niveau qu'ils n'auraient pas même imaginé eux-mêmes que cela pût exister.
Les années 60, dans sa montagne, Jean Lassalle n'est pas encore l'ogre à la voix caverneuse, juste un grand dadais, un peu maladroit. Chez lui, à Lourdios-Ichère, 150 habitants, pour l'instant, il n'a Dieu que pour monsieur le maire, cet homme qu'il trouve si bienveillant.
À l'âge de 10 ans, nous avons inauguré l'église, j'étais enfant de cœur. Le député de l'époque, qui avait failli être ministre de Gaulle, a prononcé un discours brillantissime à cette occasion. Il nous a raconté que la veille, il était à Tel Aviv, qu'il était passé par Jérusalem et qu'il était arrivé au petit matin pour venir inaugurer l'église de Lourdios et j'ai eu envie d'être député. Et puis, très rapidement après, je me suis dit que pour espérer changer le cours des choses, il faut des têtes au président de la République.
Alors le jeune Lassalle montre qu'il a de la suite dans les idées. Maire de son village à 21 ans, conseiller général, député suppléant, puis député tout court. Dans l'hémicycle, en 2003, c'est l'hymne béarnais qui coupe la chic au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.
Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient.
Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, monsieur... Comment il s'appelle, lui,
se demande alors le patron de l'Assemblée. Jean Lassalle voulait défendre la présence de gendarmes dans sa vallée. Il vient de se faire un nom au Palais Bourbon. Des coups d'éclat, il y en aura d'autres, des coups de gueule, des coups de sang et des coups de poker. 5000 km à pied en 2013 pour aller à la rencontre des Français. Avant ça, en 2006, près de 40 jours de grève de la faim.
Ce qui n'est pas franchement la meilleure nouvelle qu'on puisse annoncer à sa femme. Avec 4 enfants qui sont encore jeunes.
Il voulait empêcher la fermeture d'une usine, combat gagné pour celui qui vit la politique comme aucun autre.
Je crois qu'en toute chose, il faut des artistes. J'en vois peu dans le monde politique. D'ailleurs, j'en vois peu dans tous les domaines.
Jean Lassalle, le berger, n'a pas renoncé à franchir de nouveaux sommets. 435 000 voix, 1,2% des suffrages en 2017, et il a à nouveau dit oui pour 2022.
Rappel au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet.
Monsieur Lassalle, vous n'avez plus de droit de parole sur... Monsieur Lassalle, rappel au règlement, Madame Ménard. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée.
Et on va donc encore beaucoup l'entendre, Jean Lassalle, dans les mois à venir jusqu'en avril 2022. Présidentielle, le jour où j'ai dit oui, c'est une chronique à retrouver sur le site RTL.fr et sur l'appli RTL. Une pause dans un instant, le point météo. Les auditeurs ont la parole, c'est dans quelques minutes votre émission, vous en choisissez le thème. Dans l'actualité, ce qui vous interpelle, ce qui vous intéresse. Par exemple, Sud Santé qui a lancé un mouvement de grève dans les hôpitaux aujourd'hui. Le syndicat dénonce la vaccination obligatoire des soignants. Faut-il contraindre les blouses blanches à se faire vacciner ou non? La vidéosurveillance dans les villes valenciennes dans le Nord est aujourd'hui épinglée par la CNIL sur son système vidéo particulièrement intrusif. Jusqu'où une municipalité peut-elle fouiller dans le comportement de ses citoyens dans les espaces publics? Que faire de la lecture des plaques d'immatriculation par exemple? Vous nous appelez au 3210. Et puis, le mauvais temps, ça continue sur une bonne partie de la France. Si vous êtes en congé, comment occupez-vous les enfants, les jeux vidéo, les jeux de société? Bravez-vous les éléments pour une promenade sur la plage? Les auditeurs ont la parole. Juste après 13h, le standard de RTL vous attend. La météo claire de l'Orme, on en parlait. Même le sud n'est pas épargné par les intempéries aujourd'hui.
Exactement, c'est une journée qui, on peut le dire, est bien arrosée puisqu'on a une perturbation active qui, dans l'après-midi, va concerner donc le pourtour méditerranéen en remontant vers la région Rhône-Alpes ainsi que la Bourgogne et la Franche-Comté avec des pluies qui sont temporairement plus soutenues, plus marquées, alors qu'ailleurs, ça sera un ciel bien couvert mais aussi avec un bon régime d'averses. On pourrait avoir aussi une tournure orageuse, hein, que ce soit au Massif central, en direction du centre Val-de-Loire, même en direction du relief des Pyrénées. Par contre, dans le sud-ouest, ça s'éclaircit un tout petit peu, mais au prix d'un vent qui va souffler modérément jusqu'à 60 km/h. Plus au nord, ça sera un ciel beaucoup plus variable, donc beaucoup plus calme, mais c'est pareil, on ne sera pas à l'abri d'une petite averse, hein, d'une petite ondée passagère. Donc vous l'aurez compris, le parapluie est absolument indispensable, et puis la petite laine également, car on est bien en dessous des normales de saison pour un mois d'août. Pour vous faire un ordre d'idée, c'est un mercure qui avoisine une fin septembre plutôt qu'un mois d'août, donc il faudra compter encore entre 19 et 23 degrés en général, un petit peu plus près de la Méditerranée, jusqu'à 30 degrés, mais sinon dans le détail ça fera du 20 degrés à Brest, 23 degrés à Lille, 22 degrés à Paris, 19 degrés seulement à Besançon, 20 degrés à Lyon et 21 degrés à La Rochelle.
Et demain ça continue.
Et bien en effet, demain une nouvelle perturbation va aborder les côtes de la Bretagne et puis investir progressivement les terres. Les pluies seront beaucoup plus faibles que par rapport à la veille, mais par contre le beau temps va revenir progressivement dans le sud.
Merci Claire.
Avec plaisir.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bénédicte Tassard.
Dans quelques minutes, vous avez la parole, mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Pas de couvre-feu, mais le port du masque étendu en Haute-Corse. Les kermesses, les tournois de pétanque, les fêtes de village interdites. Décision ce matin du préfet devant une épidémie de Covid qui flambe sur l'île de Beauté. Ajaccio devrait suivre cet après-midi le plan blanc dans les hôpitaux déjà déclenchés sur l'ensemble de la Corse, mais aussi depuis ce matin en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Emmanuel Macron mobilise la communauté internationale pour le Liban. La France apporte 100 millions d'euros de nouveaux engagements annoncés. 214 morts, 6500 blessés il y a un an dans l'explosion du port de Beyrouth. Des Libanais recueillis aujourd'hui des prières, des bougies, marches silencieuses. Les Jeux Olympiques et les yeux des Français tournés vers Kevin Mayer, perclus de douleur.
La table allongée sur RTL.
Des anecdotes sur l'enfance des Bleus, ceux qui sont en train de se dépasser au JO de Tokyo. Isabelle Langer a rencontré leur famille pour recueillir leurs petits secrets. Aujourd'hui, sur la table allongée, Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze à Rio, le nageur d'eau libre protégé de Philippe Lucas, visera l'or. Ce sera ce soir à 23h30 sur le 10 km. Isabelle Langer a rencontré Philippe, le papa de Marc-Antoine.
Chapitre 1, trois prénoms pour un champion.
Philippe, Marc-Antoine est né le 18 juin 1996 à Valenciennes dans le Nord. Vous vous souvenez de ce jour-là ?
Oui, parce que c'était un moment très important pour nous. C'était notre deuxième garçon. Il faisait un peu plus de 3 kilos. Comme tous les bébés, forcément, c'est le plus beau du monde.
Pourquoi Marc-Antoine ?
Ça vient de moi parce que j'adore les prénoms composés. D'ailleurs, mon fils aîné s'appelle Philippe Alexandre. Après, on m'avait proposé Charles-Édouard par rapport à Charles de Gaulle, etc. Et puis, mon fils aîné m'a dit, maintenant, comme tu as toujours dit Marc-Antoine, il faut rester sur Marc-Antoine. Voilà.
Chapitre 2, peur de l'eau.
C'était un bébé comment ? Sage, capricieux ?
Bébé, il était gentil. Gentil et sage, voilà.
Après, ça a changé un peu ?
En fait, dès l'âge de 2 ans, dès qu'il a su marcher, il m'a accompagné à la piscine pratiquement tous les jours pour voir son frère s'entraîner. Donc, être enfermé dans une piscine tous les soirs pendant 2 heures, quand on a 2-3 ans, c'est pas très facile, en fait. Voilà.
Du coup, il a su nager à quel âge ?
Il n'a pas nagé très tôt, parce qu'il avait peur de l'eau. Et d'ailleurs, une anecdote, c'est que quand il se douchait, il se mettait toujours sur le côté du mur pour pas avoir de l'eau sur ses cheveux et son visage.
Son premier jour d'école, vous vous en souvenez ?
Plus trop, non. Est-ce qu'il a été à l'école ? C'est pas quelque chose qui le passionne énormément. Bien qu'il ait eu le bac S quand même. Il a toujours été moyen dans toutes les classes. Et puis, arrivé en troisième au collège, son but, c'était de partir en pôle de natation parce qu'il a toujours dit « je serais, enfin, entre guillemets, professionnel en natation ».
Chapitre 3, hors bord.
Il a fait d'autres activités que la natation ?
Dans chaque sport qu'il a fait, il a toujours eu un très très bon niveau. Il y a même une compétition pendant les vacances de ski où il a rencontré les jeunes du même âge des stations et c'est lui qui a gagné.
La glisse, en fait, c'est un truc chez lui.
Oui, je pense aussi, oui, parce qu'on trouve même qu'en natation, il a une glisse exceptionnelle. Il y en a beaucoup qui l'appellent le hors-bord parce que quand il accélère, on a l'impression qu'il touche plus l'eau et voilà.
L'eau libre, ça correspond bien à son tempérament ?
Oui, parce qu'il aime la nature, tout ce qui est en extérieur, il préfère la mer que la piscine, bien qu'il s'entraîne qu'en piscine.
Chapitre 4, la face cachée de Marc-Antoine Olivier.
C'est quoi sa plus grande qualité ?
Il est travailleur.
Son plus gros défaut ?
Mais je crois qu'il en a pas. Sincèrement.
Son surnom ?
Ben c'est Marco.
Est-ce qu'il a un péché mignon, un plat, quand il vient à la maison, il faut faire ce plat-là ?
Alors, son péché mignon, c'était la ratatouille niçoise de ma maman, que j'essaie de copier. Il me dit que j'y arriverai jamais. Donc après, je lui ai fait comprendre que dans le Nord, on n'a pas les mêmes légumes que dans le Sud.
Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était enfant, comme métier ?
Archéologue.
Il avait un rêve quand il était petit ?
Un rêve, non, je pense pas, mais son rêve actuel, c'est d'être champion olympique.
Épilogue.
Quel regard vous portez sur l'homme qu'il est devenu ?
Ben, je suis hyper admiratif. Parce qu'en fait, il n'a pas eu de vie d'ado, pas de vie de jeune homme. Maintenant, sa vie d'homme, tout est basé sur la natation. C'est vrai que quand on veut être le meilleur au monde, ben, il faut passer par là. Et il sait, et il a mis plein de choses en place pour être le meilleur.
Il vous étonne sur ça ?
Énormément, oui. Parce que c'est pas évident, parce que même très jeune, il a toujours eu ça en tête.
Vous êtes très très proche de lui, hein. Un peu papa poule avec lui ?
Très papa poule. D'ailleurs, ça fait pratiquement 10 ans qu'il est parti, et ça fait 10 ans qu'il nous appelle tous les jours.
Donc il dispute ses deuxièmes Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Bah, lui dire que qu'il est le meilleur, qu'il doit croire en lui.
Voilà. Vous avez envie d'être dans votre bulle familiale et à regarder ça devant votre télé ?
Voilà, oui, tout à fait. en famille.
Est-ce que c'est vos émotions et c'est votre histoire?
Oui, c'est difficile à partager ses émotions parce que après les gens ne comprennent pas forcément les émotions qu'on peut avoir. Moi, dès qu'on appelle son nom, je me mets à pleurer. Voilà. Mais c'est pour toutes les compétitions, hein, même aux championnats de France ou autre. Voilà. Dès qu'on appelle son nom, je me mets à pleurer. Donc, disons peut-être parce que je suis un homme, je trouve ça un peu. Voilà. J'ai pas envie de trop montrer que je pleure et voilà, montrer mes émotions en fait.
Et merci au Papa Poule de Marc-Antoine Olivier, Philippe Olivier pour ses confidences. La table allongée, c'est à retrouver sur le site RTL.fr avec en bonus les photos d'enfance de nos champions, des clichés confiés par les parents des sportifs. Auditeurs, dans un instant, c'est à vous.
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.